Jean-Pierre Vincent, après les pièces de guerre, qu'est-ce qui vous a poussé à monter 11 débardeurs d'Edouard Monde, qui est plus qu'un nouveau spectacle, c'est vraiment un projet?
Oui, il y a deux éléments dans le projet. Il y a d'une part le fait que je voulais revenir sur le futur de Bond, que j'en avais parlé avec lui, qu'il m'avait aiguillé sur une pièce assez ancienne, d'une ancienne manière de lui, une sorte de pièce révolutionnaire sur la guerre d'Espagne et tout ça. D'une part, c'était un monstre pour théâtre national anglais, il fallait 40 acteurs, etc. Et puis, la pièce ne m'emballait pas. Et quand j'ai lu ce texte-là, que Stuart Sine m'avait donné en manuscrit, comme ça, la première fois, je suis resté un peu sur le bord. Et la deuxième fois, je me suis rendu compte qu'il fallait parler après cette pièce.
Ça veut dire quoi, rester un peu sur le bord?
Ben, je me suis dit, non, j'ai pas trop envie de la monter. Et parce que la fin me semblait bizarre. Et quand j'ai compris que la fin débouchait presque automatiquement, en tout cas pour moi, sur une discussion avec des jeunes spectateurs, ça a correspondu à une autre envie que j'avais, qui était dans les années que nous traversons, là, de faire, non seulement de continuer à faire les spectacles que je fais sur les grands plateaux, dans les grandes salles, que ce soit des pièces anciennes ou des pièces d'aujourd'hui, et de chercher un certain nombre d'occasions pour faire un travail, appelons-le plus directement politique, appelons-le décalé par rapport aux pratiques de la grande mise en scène, disons, faire autre chose de façon plus interventionniste, chose qui m'apporte beaucoup pour l'autre travail aussi.
Qui est un travail de mise en scène plus...
Appelons-le classique, oui.
Et alors là, comment ça se passe?
C'est quoi qui se passe?
Les rencontres, les discussions.
Mais je me disais, et c'était pas une coquetterie, je crois, je me disais avant, non seulement je peux apporter des choses, avec l'aide de Bond, évidemment, je peux apporter des choses à des jeunes spectateurs, mais eux peuvent m'apporter des choses aussi. C'est-à-dire que dans ces représentations, parfois très vives, et ces débats parfois très désordonnés en surface, je crois que j'ai compris pas mal de choses sur ce que sont des gosses ou des jeunes gens d'aujourd'hui, comment leur tête fonctionne, comment il ne faut pas s'arrêter à la surface des comportements, comment en fait ils sont toujours des êtres humains, alors que la déshumanisation est apparemment en route. Comment ils sont encore un peu des enfants, comment ils hésitent à devenir des hommes, etc. Donc tout ça, c'est une chose qui remue dans ma tête à l'heure actuelle, puisqu'on est encore dans les représentations, et qui va se déposer, qui va devenir quelque chose, je pense, d'autre.
Et le théâtre, est-ce qu'il y a un rapport direct entre théâtre et éducation?
Il y a, depuis 25 siècles, on vit dans une contradiction, c'est-à-dire que aucun art n'est pédagogique, parce que un art pédagogique, ça n'est rien, et le rien ne peut même pas enseigner. Bon, mais l'art est une activité tout à fait solitaire, je dirais élitiste, et qui, depuis sa fondation dans la cité grecque, a une mission contradictoire avec sa nature, qui est, non pas d'enseigner, mais de démêler les fils de la vie de telle façon que les êtres humains vivant dans une société comprennent mieux, à travers des questions, ce qu'est leur vie. Apprennent à être eux-mêmes, réellement. Donc il y a cette contradiction entre la solitude de chaque être humain et son obligation à vivre ensemble, qui est la représentation même du théâtre, je crois, et aussi cette activité qu'on pourrait dire purement ludique, gratuite, qui, de fait, a aussi une mission enseignante. Je ne dirais pas pédagogique, mais enseignante. Et sa façon d'enseigner n'est pas celle de l'enseignement.
Voilà. Et le théâtre, qui est un mode d'expression très, très ancien, est encore opérant aujourd'hui pour s'adresser à des jeunes gens qu'on dit génération PlayStation, mmh. génération Internet, etc. Vous avez l'impression qu'il y a, y a une adresse possible par le théâtre à ces générations-là ?
D'une certaine façon, le choc entre cette manière archaïque de raconter des histoires et tous les progrès technologiques qu'ont accompli les récits d'histoire, surtout au XXe siècle, ce choc-là, cette différence, je crois qu'elle est saisissante. Mais, si on y réfléchit bien, elle l'a toujours été. Je pense que une pièce d'Eschyle, en pleine vie athénienne, se heurtait déjà au mode dominant du divertissement. C'est de, la différence entre art et divertissement. Mais elle a toujours existé, je pense. Elle a existé au Moyen-Âge, elle a existé au temps de Shakespeare. Donc aujourd'hui, elle continue à avoir sa fonction. C'est extrêmement étonnant que le théâtre ait survécu au XXe siècle. C'est extrêmement étonnant, étant donné les progrès extraordinaires de la technologie de la fiction. Parce que nous sommes quand même toujours des corps qui pensent, avec toutes les opacités que ça peut représenter, des corps qui sont malades, des corps qui bouffent et qui chient, des corps qui vivent et qui meurent. Et ces mystères-là, cette question-là, elle est traitée au théâtre bien mieux et de façon bien plus diverse et plus complexe, justement que dans les lieux de récit technologiques, que le cinéma, que la télévision, que les jeux vidéo, etc., qui n'ont pas de don d'ubiquité totale. Le théâtre a un don d'ubiquité totale. On peut être en même temps, dans sa propre tête, dans la tête de l'acteur, dans la tête du personnage, à l'intérieur, à l'extérieur, dans le passé, le présent et le futur en même temps, ici et là-bas en même temps. Il suffit de le dire avec des moyens extrêmement simples. La poésie du théâtre est infinie. Alors que les poésies technologiques sont finies.
Et pour revenir à la pièce, est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu trop implacable dans le parcours de ce personnage, un peu trop négatif finalement pour l'adresser à des jeunes comme ça?
Moi, j'ai toujours senti dans les pièces récentes de Bond, disons depuis les pièces de guerre, à peu près le milieu des années 80 dans son écriture, ce qui m'a frappé d'emblée, à l'air de ne pas frapper les autres, c'est que ce type est un optimiste violent.
Edouard Bond ou le personnage?
Edouard Bond, ouais. est un optimiste. Parfois même, je trouve, trop optimiste. S'il éprouve le besoin de passer par toutes les horreurs dont l'humanité aujourd'hui est capable, c'est parce qu'il lui fait confiance à cette humanité. C'est parce qu'il se dit que le seul moyen de déclencher un sursaut, une possibilité, une volonté de ne pas se laisser aller vers le suicide de l'humanité, disons, eh bien c'est de raconter ça. Et de le raconter d'une certaine manière. Je crois que hier soir, on a donné notre première représentation pour public adulte. Et je sentais tout à fait que le public adulte réagissait de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il avait plutôt tendance à penser que la fable était implacable. Alors que ce que je retire des représentations avec les jeunes, c'est qu'eux ne le prennent pas comme ça. Ils savent qu'ils naissent dans un monde comme ça. Il suffit de regarder la télévision 5 minutes, on s'en rend bien compte. Et on s'en rend d'autant plus compte qu'on a encore ses rêves d'enfant, c'est-à-dire le rêve que le monde doit être juste et peut être juste. Et donc, ils savent ça, et ils ont un tout autre rapport avec les passages violents de la pièce, même parfois assez légers. Le meurtre de l'improviseur a des fois provoqué des rires, mais des grands rires. Bon. Donc, il y a plus d'ouverture et plus de souplesse dans la réception de cette fable, qui est implacable jusqu'à une minute de la fin, où il se passe un certain nombre d'événements qui ouvrent tout d'un coup autre chose. Moi, dans ma réception du théâtre de Bond, je sens une vision du monde assez humoristique, tout le temps, où j'y suis très sensible. Et je sais que ça ne sert à rien pour les artistes qui interprètent ces textes, d'en remettre une couche sur la violence, le malheur, le monde gris et pulvérulent de l'après-bombe atomique, etc. Dans la deuxième partie de Grande Paix, la troisième des pièces de guerre, ce désert post-atomique est plein de vie et d'énergie.
Est-ce que ça vous semble un bon terrain de jeu pour de jeunes acteurs? Parce qu'à chaque fois, c'est bon, les pièces de guerre, vous les avez montées, les jeunes gens qui à l'époque étaient encore...
qui finissaient l'école.
Voilà, qui finissaient l'école de l'ERA. Et là, vous en reprenez deux
de ce groupe-là et deux d'un autre groupe.
Voilà, c'est ça. Donc maintenant, c'est des acteurs qui sont passés professionnels, c'est ça? Qui sont plus à l'école.
Oui,
qui sont mais qui acteurs. Sont de tout jeunes...
qui ont 27-28 ans.
C'était un choix
Oui, je voulais instinctivement que la distance d'âge entre les spectateurs et les acteurs soit la plus courte possible. Il fallait quand même des acteurs capables d'assumer la complexité de jeu et la précision de jeu que ça nécessite, de tenir le choc aussi en face de divers publics. Moi, ce qui me semble évidemment extrêmement profitable, on pourrait faire une école Bond, c'est que il travaille les fondamentaux. Il permet aux acteurs de travailler ce qu'on appelle en rugby ou les fondamentaux. Il y a un certain nombre de choses qui sont communes à tous les grands poètes dramatiques. La façon de faire progresser une scène, la façon de lier tous les éléments qui se passent dans une pièce à un centre, à un discours central. Il y a un discours central chez Molière, il y a un discours central chez Goldès. Et souvent, je crois qu'on n'enseigne pas ça assez systématiquement dans les écoles. Une façon de s'emparer d'un texte pour ce qu'il est et de faire fonctionner son imagination d'acteur ou de metteur en scène, de décorateur, à partir même du foyer énergétique que représente un poème dramatique. Et ce poème dramatique-là, chaque poème dramatique a une énergie propre, ce que Bond a appelé dans un titre l'énergie du sens.
Et alors dans le cas de 11 débardeurs, quel serait le discours central de Bond?
Je crois que ça tourne autour de « apprendre ». Ça tourne autour de apprendre à la fois des faits, mais apprendre le monde. Un garçon déchire un certain nombre de choses à l'école, affirme une certaine indépendance, une certaine liberté par rapport à la structure, au système, mais pendant ce temps-là, il n'apprend rien. Un jour, on arrive à lui apprendre quelque chose, c'est à trouer un sac de paille avec une baïonnette et il va entrer dans le monde comme ça. Et il se trouve que la culture de ce monde est corruptrice, corrompante. Enfin, on ne s'assimile pas, à partir de ce qu'il appelle l'innocence radicale de l'enfance, on ne s'assimile pas au monde sans accepter de se corrompre un tant soit peu avec lui, de passer des compromis avec lui. La culture dit Bond, est le meilleur moyen, la corruption est le meilleur moyen que nous ayons eu de faire des progrès. Alors ce gosse fait des progrès en assimilation, il devient un bidasse comme tous les autres. Il était totalement solitaire, maintenant il a appris des choses, il est dans le rang, dans les rangs, et un jour il lui arrive une histoire à nouveau bouleversante, qui est de tuer un ennemi qu'il n'a pas le droit de tuer, qui parle une langue absolument inconnue pour lui, et pour la première fois de sa vie, il veut connaître quelque chose d'autre que lui. Je crois que c'est ça la ligne centrale de la pièce. Et qu'il est toujours possible, même au milieu de la catastrophe, de réagir. Après, on ne sait pas ce qui lui arrivera après la fin de la pièce. Mais le geste questionnant de la fin de la pièce, c'est ça qui s'offre au débat après, pour commencer. Et alors après, évidemment, dans la pièce, il y a toute une série d'éléments fourmillants qui se font écho, des parallèles, des contradictions. Je crois que moi, j'ai toujours l'impression qu'une pièce de Bond, c'est comme une carte géographique d'un moment et d'un morceau de l'humanité. Une carte où il y a des relations, des routes qui mènent de la colline machin au lac machin, de notions humaines, de personnages, d'événements, de péripéties, et qu'il ne peut commencer à écrire la pièce que quand cette carte a une vraie cohérence, une grande richesse.
Et vous sentez, à travers les débats, que c'est réellement écrit des jeunes collégiens, c'est ça ? C'est plus cette tranche d'âge qui...
Ouais, pour moi c'est 14-15 ans, et l'âge, disons, du personnage au début de la pièce, je crois qu'il a un vrai génie pour écrire en direction de ce public-là, et...
Il ne s'adresse plus qu'à ce public-là, d'ailleurs, quasiment maintenant, non ? Enfin, il dit qu'il ne veut plus que...
Il fonde ses espoirs sur ceux qui ont de l'avenir. Lui, bon, il arrive à un certain âge et je pense que c'est assez logique d'ailleurs de se préoccuper de ceux qui vont faire le monde, parce qu'ils vont le faire. Quel monde ils vont faire, on ne sait pas. Mmh. Mais c'est quand même eux qui vont le faire.
Il y a un passage dans la scène où l'élève balaye la paille qui est tombé du sac, et ce passage est assez long. L'acteur prend réellement le temps du geste, et par ailleurs, entre chaque scène, entre chaque séquence, les temps de latence, de changement, etc., sont relativement longs. Enfin, en tout cas, j'ai constaté que le public collégien s'impatientait un peu dans ces moments-là. Où a priori il ne se passe rien. Est-ce que c'est délibéré de votre part ?
J'ai voulu que la pièce se développe calmement. On est dans un monde excité, nerveux, etc. Je n'ai pas voulu créer une ambiance pesante, mais que une des caractéristiques de cette écriture, comme de toute grande écriture, c'est une chose après l'autre. Aujourd'hui, on pense trois choses à la fois, on fait trois choses à la fois, les choses vont vite, on est victime de cette vitesse, alors que ce que les grands poètes nous apprennent, c'est qu'il se passe une chose après l'autre, une chose après l'autre. Je crois que, bon, il y a des intervalles de 10 secondes hein, entre les scènes, et Bond me disait, quand il est venu, ça pourrait aller plus vite. J'ai dit, oui, mais vous avez fait en sorte qu'il y ait des changements de costume importants entre chaque scène. Vous changez de collégien anglais en treillis d'entraînement, puis de treillis d'entraînement en tenue d'assaut. Ça ne se fait pas en 5 secondes. Et moi, j'ai profité de ça pour avoir de ouvrir les pages du paysage calmement. Et je crois que dans une salle où il y a des gosses, où il y a des jeunes, le fait qu'il bouge, le fait qu'il rigole sur le fait que le régisseur qui vient changer des petites choses à des grosses moustaches comme un personnage d'Harry Potter ou de je ne sais quoi, tout ça, ça fait partie du temps qu'ils ont aussi pour laisser germer les questions. Ça a l'air un peu éruptif comme ça, mais c'est aussi une manière extrêmement vivace de jeunes gens pour s'exprimer, parler. On a aussi vérifié bien des fois pendant les présentations que certains des élèves qui étaient les plus remuants pendant les présentations, qui avaient l'air d'être totalement inattentifs, étaient particulièrement perspicaces. Et que lors du débat, c'était eux qui levaient tous les lapins de la prairie les uns après les autres.
Pour finir, peut-être, comment ça s'inscrit dans votre parcours, cette expérience particulière, après la sortie de l'institution, comment ça se passe?
Oui, enfin, dans l'institution, il y a 2 ans et demi, j'ai fait le drame de la vie de Novarina avec 52 amateurs. J'ai mon travail dans les écoles depuis 30 ans, qui est une partie secrète de ça. On pourrait dire, en souriant, que ça fait partie de ma manie du furet. Il est passé par ici, il repassera par là. C'est-à-dire, je n'aime pas rester là où on croit que je suis. Je suis un peu déboussolant, parce que je n'ai pas une manière vraiment assignable. Je ne fais pas du Vincent. Pas mal de mes spectacles, on ne pourrait pas dire que c'est la même personne qui a fait le spectacle d'avant et qui fera le spectacle d'après. C'est pas du tout par goût du tentaculaire ou de la dissimulation, mais je sens en moi beaucoup de curiosité, beaucoup de tentation d'aller voir ici, d'aller voir là, de ramasser dans divers endroits de la théâtralité quelque chose pour m'enrichir. En fait, je crois que si je continue à faire du théâtre, c'est que j'apprends encore quelque chose à chaque spectacle. Et pour apprendre quelque chose à chaque spectacle, il ne faut évidemment pas être en train de sculpter sa propre statue. De chercher, alors je ramène encore des morceaux de statue, tout ça, il n'y a pas de statue. Voilà. Et par rapport, disons, à une ligne qui a pu être centrale, et je crois que maintenant, effectivement, il n'y a plus trop de centre, mais une ligne centrale qui était faire les choses les plus fortes et les plus belles possibles pour les grands plateaux, faire le meilleur théâtre possible pour le plus de gens possible. Maintenant, l'activité interne à l'école de Cannes, ou des projets comme celui-là, ou comme celui que je rêve de faire, qui serait de faire les suppliantes d'Eschyle avec 50 jeunes beurettes dans les quartiers nord de Marseille, c'est une façon de me maintenir violemment en alerte. Voilà.
Est-ce qu'il y a une dernière question? Est-ce qu'il y a un rapport pour vous entre ces pièces d'Edward Bond et certaines pièces de Brecht? Dans le côté didactique.
C'est vrai, le rapport avec Brecht est vraiment lointain, je trouve. Il dit que, par exemple, Rouge, Noir et Ignorant, qui est une pièce relativement proche de ça, est une pièce qui est influencée par l'agitprop. Mais en même temps, c'est pas une pièce pour être jouée devant des usines, par exemple, ou sur une place publique. C'est une pièce qui nécessite la concentration d'un lieu théâtral. Même si ce lieu théâtral est un hangar ou une usine. Il y a quelque chose de différent. Enfin, Bond lui-même dit, dans le théâtre de Brecht, c'est comme si les personnages lisaient leur propre vie dans le journal. Et dans le mien, il y a une immédiateté, il y a une immanence. Il n'y a pas de regard à la fois ironique ou complice ou tout ça, de distance prise. Donc ça fait une chose différente. Mais c'est vrai que mes années de formation, à moi, qui sont entre 18 ans et 28 ans, ont été brechtiennes.
C'est pour ça que je vous pose.
Oui. Et que il y a quand même, dans la concrétude de l'écriture de Brecht, même s'il y a cet élément qui les différencie beaucoup, dans la concrétude de l'écriture de Brecht, si on l'a pratiqué, on est quand même armé d'une sorte de propédeutique à comprendre la façon dont Bond agrippe le concret du monde et développe des situations concrètes. Fait des poèmes avec du vrai. Voilà. Donc je sens bien qu'il y a quelque chose de commun, mais il y a aussi quelque chose de commun, après tout, avec Georg Büchner ou avec d'autres grands auteurs de la tradition qui scrutent le réel à partir du théâtre. Et il y a aussi la même folie violente, par exemple, entre Büchner et Bond, ou entre les premières pièces de Brecht et Bond. Au fond, c'est plutôt vers Baal, bizarrement, qu'il faudrait aller, Tambour dans la nuit, que vers Galilée, par exemple. Il a écrit des pièces brechtiennes, à un moment. Il est passé par Brecht, et après il s'en est détaché, certaines fois violemment, dans son expression même. Il a besoin de ce repoussoir-là, comme il a besoin du repoussoir Beckett. Je ne suis pas Brecht, je ne suis pas Beckett. Il se définit par rapport à un certain nombre d'auteurs. Et bizarrement, et Dieu sait si c'est un poète différent, mais j'ai retrouvé les mêmes définitions par rapport aux Grecs, par rapport à Shakespeare, par rapport à Brecht et à Beckett et à Tchekhov, dans Thomas Bernhardt. Thomas Bernhardt, le faiseur de théâtre, il y a Édipe à Colonne, il y a du Tchekhov, etc. Ils ont besoin de se définir, par différence.
On arrête là.
D'accord.
Merci.